Vous êtes à l'écoute de France Culture, c'est l'été, Raphaël Bourgois.
Et à 18h15, ce sera le grain à moudre d'été, mais pour l'instant, il est 18h. Le journal vous est présenté par Camille Magnard. Bonsoir Camille.
Bonsoir. C'est confirmé, la France prend le contrôle à 100% des chantiers navals STX. Une nationalisation qui ne dit pas son nom mais qui n'a pas fini d'intriguer. Chez nous, nous le verrons avec Fiona Mogadam, et chez nos voisins italiens désavoués, nous retrouverons Xavier Sartre à Rome. Emmanuel Macron ne veut plus aucun migrant qui dorme dans les rues d'ici à la fin de l'année. Quels moyens pour le logement et le traitement des demandes d'asile des réfugiés? Question posée à Ilan Malka et à la présidente de la CIMAD, Geneviève Jacques. L'amertume des agriculteurs bio en France, le ministère va bien leur reverser une partie de l'argent de la PAC destinée aux céréaliers, mais le montant de ce transfert est dérisoire, c'est ce que nous dira Valentine Joubin. Nous irons aussi sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem dans ce journal, avec les milliers de prieurs musulmans de retour sur les lieux après 2 semaines de boycott. Ce sera un reportage d'Étienne Monin, 18h15, du grain à moudre d'été. Raphaël Bourgois.
Venezuela, un pays au bord de la rupture. On en discute avec l'anthropologue Paola Vasquez, Gaspard Estrada de l'Opalc et Thomas Posado, qui est politologue.
Nationalisation. Le mot n'a pas été prononcé une seule fois tout à l'heure à Bercy par Bruno Le Maire, et pourtant c'est bien cela qu'il a annoncé pour ne pas donner le contrôle des chantiers navals de Saint-Nazaire au repreneur italien Fincantieri. L'État français a donc décidé de faire jouer son droit de préemption, de racheter 100% des parts du fleuron français de la construction navale. La chose peut sembler ironique de la part d'un ministre qui annonçait il y a quelques semaines vouloir lancer une série de privatisations. L'opération STX va coûter au moins 80 millions d'euros à l'État. Bonsoir Fiona Mogadam.
Bonsoir.
Mais Bruno Le Maire l'a précisé tout de suite, cette nationalisation de fait n'a pas vocation à durer. Reste à savoir ce qui va se passer maintenant.
C'est simple, le ministre de l'économie l'a annoncé tout à l'heure, c'est son intention de poursuivre les négociations avec nos amis italiens, comme l'a répété de très nombreuses fois Bruno Le Maire. Hors de question donc pour la France de rompre les discussions avec Fincantieri. La proposition française d'un partage à 50-50 des parts de STX France reste sur la table, mais le gouvernement devait utiliser son droit de préemption parce que l'accord initial n'offrait pas suffisamment de garanties pour Bruno Le Maire.
Aujourd'hui, il y a à Saint-Nazaire des perspectives de travail pour 11 années. Mais si demain il y a un retournement de conjoncture, quelles garanties est-ce que nous avons pour l'emploi à Saint-Nazaire? Il y a des savoir-faire exceptionnels, uniques en France. Nous voulons avoir toutes les garanties que ces savoir-faire ne partiront pas dans une autre grande puissance économique mondiale non européenne.
Voilà, on entend Bruno Le Maire. On a quand même l'impression dans ce dossier, Fiona Mogadam, qu'il y a des données de l'équation qui nous échappent, que Bercy garde des cartes dans sa manche.
Oui, parce que rompre un accord pour reprendre les négociations avec le même partenaire, ça semble quand même un petit peu compliqué, mais Bercy y croit, n'imagine pas un autre acquéreur. L'offre de Fincantieri est jugée solide et crédible. Bruno Le Maire a aussi réaffirmé l'objectif de la France dans ce dossier, établir un partenariat industriel dans un secteur nouveau avec l'Italie dans le secteur naval sous l'aspect civil, et pourquoi pas, dit le ministre, sous l'aspect militaire. Alors est-ce que c'est là qu'il y a une carte qui pourrait faire changer d'avis les Italiens? Bruno Le Maire part à Rome mardi prochain pour rencontrer ses homologues et poursuivre donc les négociations. Reste à savoir l'accueil qui lui sera réservé.
Fiona Mogadam, merci à vous. Une drôle de façon de traiter ses amis italiens. Qu'en pense-t-il, ceux-là même que va retrouver Bruno Le Maire, on vient de le dire, à Rome dans 2 jours? On voit ça avec Xavier Sartre à Rome, donc, pour France Culture.
L'arrogance française une nouvelle fois montrée du doigt. Les Italiens comprennent mal que la France refuse le rachat des chantiers de Saint-Nazaire par leur entreprise Fincantieri, alors que l'acquisition de ce site par une société coréenne n'avait pas mobilisé autant Paris. Quand ce sont les entreprises françaises qui achètent à tour de bras en Italie, pas de souci, mais quand c'est le contraire, cela est inadmissible. Aux yeux des Italiens, il y aurait donc 2 poids 2 mesures et pas à leur avantage. Du côté de Fincantieri, fleuron de l'industrie italienne, pas de commentaire pour le moment, on prend acte simplement de la décision française. C'est du côté politique que les réactions commencent à se faire entendre. Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi, fustige le gouvernement italien qui ne sait pas se faire respecter. À gauche, c'est la passivité de l'exécutif que l'on critique, espérant qu'il se montre plus déterminé dans d'autres dossiers, comme celui des télécommunications. Cette affaire semble mettre un terme à la bonne image dont bénéficiait en Italie Emmanuel Macron depuis son élection. Cela met aussi en lumière la faiblesse du gouvernement italien face à d'autres nations européennes, comme la France ou l'Allemagne, plus stables et plus à même de défendre leurs intérêts propres. Prochaine étape en tout cas, mardi prochain, Bruno Le Maire doit se rendre à Rome pour y rencontrer son homologue italien et parler d'un futur projet européen solide et ambitieux. Pas sûr que les Italiens soient enthousiastes.
Une correspondance depuis Rome de Xavier Sartre. 18h05 sur France Culture. Emmanuel Macron veut s'attaquer à la question de l'accueil des migrants par l'angle du logement. Il visitait ce matin à Orléans un centre d'hébergement pour des familles de réfugiés. L'occasion pour lui de préciser le cap en matière de politique migratoire. Bonsoir Ilan Malka.
Bonsoir Camille.
Vous revenez d'Orléans, vous avez suivi cette visite présidentielle. Alors là où il y a un mois, son ministre de l'Intérieur Gérard Collomb disait sa volonté de ne pas laisser les migrants s'enquister en France, le chef de l'État a choisi d'autres mots, mais des mots forts également. Il ne veut plus de migrants qui dorment dans les rues d'ici à la fin de l'année.
Oui, on ne pourra pas accepter tous les demandeurs d'asile, mais les dossiers doivent être examinés rapidement et en attendant la réponse, les migrants doivent être logés dignement. C'est ainsi que l'on peut résumer la position du chef de l'État. On l'écoute.
Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. Mais je veux que partout où sont construits ces hébergements d'urgence qui permettent de les accueillir, il y ait les dispositions administratives qui permettent de traiter leurs dossiers.
Alors ce matin à Orléans, le président était venu assister à une cérémonie de naturalisation. Aurélie Odongo, congolaise d'origine, a vécu en France pendant 16 ans avant d'obtenir aujourd'hui donc la nationalité. Des années parfois très difficiles qui confirment le diagnostic.
Le plus compliqué, c'est de ne pas avoir de quoi se loger. C'est ça le plus compliqué. Manger, on peut aller à la Croix-Rouge, manger et tout, mais là où on peut dormir quoi.
Et vous, vous faisiez comment, justement ?
La cohabitation.
Salomé Reveréchou, camerounaise d'origine, est aussi devenue française aujourd'hui.
L'attente, c'est ce qu'il y a de plus dur. Il ne faut plus garder les dossiers dans les tiroirs, parce qu'il y a plein de demandes. Si on ne veut pas accepter, on répond de suite, même 2-3 mois, même si elle est négative, comme ça, on sait en quoi s'en tenir. Et si on veut accepter, on répond aussi de suite. Il faut réduire les attentes.
Alors pour essayer de régler ces problèmes, 12 500 places d'hébergement vont être créées pour les demandeurs d'asile et réfugiés d'ici 2019. Les délais doivent être réduits, mais le président a été clair, les migrants dont la vie est en danger ont vocation à être accueillis, mais pas ceux qui viennent pour des raisons économiques.
Alors Ilan Malka, plus personne dans les rues et les forêts d'ici à la fin de l'année, donc cette phrase d'Emmanuel Macron rappelle forcément un autre engagement présidentiel, c'était celui de Nicolas Sarkozy en 2006, lui promettait zéro SDF en 2 ans. Au-delà des slogans accrocheurs pour la présidente de la CIMAD, Geneviève Garde, le gouvernement ferait mieux de mettre des moyens derrière ces discours.
Si l'objectif, c'est qu'il n'y ait plus de personnes dans les rues, bien sûr, nous souscrivons à ça, mais qu'on nous dise d'abord quelles sont les mesures qui vont être prises pour qu'il y ait des lieux d'abri dans les lieux les plus critiques et l'écoute et l'accompagnement qui sera apporté aux personnes qui se trouveraient dans ces lieux. Or, ça n'existe pas pour le moment.
Donc les annonces faites aujourd'hui n'apportent pas de solution à vos yeux au problème des réfugiés ?
Elles n'apportent pas de réponse aux questions les plus urgentes d'aujourd'hui, qui sont les situations déplorables et scandaleuses que l'on constate à la frontière italienne, dans la région de Calais, à Paris, en raison d'une absence de politique à la hauteur des besoins d'abri et d'orientation de ces personnes. Ça, c'est notre constat urgent. Et ce que nous disons, c'est que ce n'est pas le nombre qui montrait en flèche qui pose problème. C'est le manque de traitement approprié et de réponse appropriée aux personnes qui arrivent actuellement, qui créent toutes ces zones de tension et surtout de souffrance et d'humiliation pour les exilés. C'est là où on veut des réponses aujourd'hui pour que soient crédibles des discours qui disent « on va faire mieux demain ».
Geneviève Jacques de la CIMAD avec Aurélie Kiefer, un dernier axe de la politique migratoire donc présenté par le président de la République, c'est d'aller sélectionner les demandeurs d'asile avant qu'ils ne traversent la Méditerranée. Pour cela, Emmanuel Macron veut créer dès cet été des hotspots en territoire libyen, des centres où seraient instruites directement les demandes d'asile des migrants. L'Élysée reconnaît tout de même qu'à ce stade, les conditions de sécurité ne sont pas réunies en Libye. À l'Assemblée nationale, un bloc de plus dans l'édifice de la future loi de moralisation de la vie publique. Il y a quelques minutes, les députés ont approuvé la fin de l'indemnité de frais de mandat parlementaire, l'IRFM. Une enveloppe qui est donnée aux élus sans aucun contrôle. Elle sera désormais remplacée par un système de remboursement de frais avec justificatif. Et puis on peut être ministre du Travail et savoir soigner son capital. Muriel Pénicaud, fragilisée par des révélations du journal L'Humanité en 2013, quand Elle était DRH du groupe Danone. Elle a réalisé une plus-value de plus d'1 million d'euros en revendant ses stock options juste après un plan social de 900 suppressions de postes. Elle a profité pour cela de la remontée de l'action Danone en bourse pour maximiser ses bénéfices. Une pratique légale mais extrêmement grave sur le plan éthique, selon la députée communiste Éliane Assassi, qui a interpellé la ministre tout à l'heure dans l'hémicycle. Démagogie et désinformation, a contre-attaqué Muriel Pénicaud. Il faut soutenir l'agriculture bio en France. Dans l'idée, tout le monde est d'accord, à commencer par le ministre Stéphane Travert. Mais dans la pratique, le compte n'y est pas, selon les petits producteurs. Ils ont eu confirmation aujourd'hui que le ministère allait bien leur reverser une partie des aides européennes de la PAC, des aides destinées en principe à l'agriculture conventionnelle. Mais c'est sur le montant de ce transfert que ça coince, Valentine Joubin.
Oui, ce transfert de subvention, les agriculteurs bio la réclamaient, mais ils espéraient beaucoup plus, car ce que prévoit le ministère de l'Agriculture, c'est de prélever 4% environ du budget de l'agriculture conventionnelle, 4% qui iront nourrir le budget réservé à la fois aux petites exploitations, aux jeunes agriculteurs et au développement de l'agriculture biologique. Trois secteurs qui vont donc devoir se partager environ 300 millions d'euros d'ici 2020. Or, selon la Fédération nationale de l'agriculture biologique, la FNAB, cet argent va juste permettre de répondre à un seul besoin, soutenir les agriculteurs qui sont installés dans des zones dites difficiles, en montagne ou dans les marais. Ceux-là sont prioritaires, cela veut dire qu'il ne resterait ensuite rien du tout pour les exploitants qui veulent se convertir à une production sans pesticides. Ils sont de plus en plus nombreux, 21 fermes bio se créent en moyenne chaque jour, toujours selon la FNAB. Et face à la crise que vit le monde agricole, beaucoup d'agriculteurs passent au bio. Pour la FNAB, il y a donc un décalage entre le discours tenu par le gouvernement lors des états généraux de l'alimentation la semaine dernière. Favoriser le développement du bio et par là la transition écologique, c'était le message. Décalage donc entre les promesses et les faits. Les agriculteurs bio ont tout simplement le sentiment d'avoir perdu une bataille face à la puissante FNSEA, le syndicat des exploitants agricoles qui défend, lui, le conventionnel.
Valentine Joubin, merci à vous. C'est un mythe un peu trop commode qui s'effondre aujourd'hui. Le mythe de la drogue des djihadistes, le captagon dérivé d'amphétamine, n'est pour rien dans les actes terroristes qui ont fait des centaines de morts ces dernières années en France et au Moyen-Orient. Ce fantasme de tueur sous influence de la mystérieuse substance ne tient pas. C'est Laurent Lagnel, chercheur à l'Observatoire européen des drogues, qui l'a expliqué à Florence Turme.
Pour les terroristes du 13 novembre qui ont donné lieu à cette espèce d'emballement médiatique autour du Captagon qu'on a soudainement nommé la drogue des djihadistes, les gens qui ont commis les attentats du 13 novembre ont été tous autopsiés et les autorités françaises ont publié un rapport disant qu'ils n'avaient pris ni drogue ni alcool avant de passer à l'acte. C'est qu'on n'arrive pas à se convaincre en fait que ces gens aient pu tuer comme ça, qu'on veut les démoniser, les bestialiser un peu plus en leur prêtant, en plus des actes, disons des atrocités qu'ils ont commises, le fait que ce soit des drogués. On n'arrive pas à penser qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il y ait des gens qui soient capables de commettre ces atrocités tout en sacrifiant leur propre vie. On pense que ces gens-là sont manipulés au moyen de produits chimiques, donc de drogues, alors qu'ils sont manipulés d'une autre manière.
Plus largement, peut-on penser que des combattants du groupe État islamique sur les zones de combat comme la Syrie ou l'Irak aient pu, eux, consommer cette drogue ?
Ce qui se passe dans des situations de guerre, tout est possible, si vous voulez, que des combattants individuels aient recours aux amphétamines, donc qui s'appellent Captagon dans cette région, peut-être, pourquoi pas. Mais la politique officielle de l'État islamique, c'est vraiment zéro tolérance envers les drogues, voire châtiment très dur pour les personnes qui utilisent de la drogue. Donc, il est à douter que l'organisation État islamique encourage ou laisse faire même la consommation de Captagon dans ses rangs.
Le spécialiste des drogues, Laurent Lagnel, joint par Florence Turme. 2 semaines qu'il n'avait pas mis les pieds sur l'esplanade des mosquées. Les prieurs musulmans ont fait leur retour cet après-midi sur le lieu saint de Jérusalem-Est. Ils saluent ainsi le recul d'Israël qui a retiré ses caméras de vidéosurveillance, imposées, on s'en souvient, et qui avait remis le feu aux poudres. Un reportage à Jérusalem d'Étienne Monin.
Porte des Lions, le groupe des fidèles est massif. Plusieurs centaines de personnes avancent de front, avec le directeur de la mosquée à leur tête qui a donné le sens de la marche.
Votre résistance, la patience, devant les portes de la mosquée. Ça fait tomber la décision des Israéliens.
Le groupe passe devant les policiers israéliens. Ils sont installés en retrait. Il est suivi par un flux continu de Palestiniens venus en famille pour célébrer cet instant considéré comme historique par Rami Abbasi, dentiste à Jérusalem.
C'est la première fois depuis l'occupation de 1967 qu'on a ce sentiment de victoire. Ce jour restera dans l'histoire parce que la question c'est qui est le chef ici? Qui est le chef autour de la mosquée Al-Aqsa? Et maintenant, le chef c'est nous. Voilà ce qui change.
Pour les Palestiniens, la mosquée Al-Aqsa est à la fois un enjeu religieux et politique. Sa défense représente le combat contre l'occupation, l'affirmation d'une autorité sur un site disputé. Il y a de l'espoir derrière ce succès, estime le docteur Al-Aqsa.
Ça nous donne de la fierté. Ça nous donne envie de dire aux Israéliens que pour la première fois, ils ont réussi à calmer le monde arabe, à éviter la vague pour la défense de Jérusalem. Mais un jour, le monde arabe se réveillera. Et tout le monde sera fier de libérer Jérusalem.
Cette célébration devrait se prolonger demain pour la grande prière que certains espèrent aussi massive que celle du Ramadan.
Il y a eu des affrontements tout de même avec les forces de police israéliennes. Le croissant rouge dénombre au moins 46 blessés. Le temps pour ce vendredi sera ensoleillé sur toute la France à l'exception du Nord-Ouest où la grisaille va s'imposer. Près de la Manche, les températures dans la matinée de 12 à 16 degrés sur la moitié nord de 15 à 20. Pour le Sud, ce journal a été réalisé par Jean-François Braun à 22h. Vous retrouverez Antoine Marette.